Donc pour vous replacer un petit peu le contexte qui fait que nous nous réunissons aujourd'hui, la dette, donc notre financeur quasiment à tous, hein, si je ne me trompe pas sur les participants d'aujourd'hui, a identifié un besoin des équipes de terrain d'être renforcées sur ces notions d'emprise auxquelles vous êtes tous confrontés et on est tous confrontés d'une manière ou d'une autre. Alors que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel et dans l'accompagnement des publics plus particulièrement. Elle a confié au SIAO le travail qui est fort intéressant d'organiser ce cycle de formation. Donc on est aujourd'hui sur une première journée qui lance un cycle, puisque dans l'idée, on a souhaité venir vous outiller sur cette notion d'emprise et sur les différentes formes d'exploitation qui peuvent en découler. Alors avec l'emprise est souvent abordée sous un angle plutôt psychologique, nous on n'a pas fait ce choix aujourd'hui et donc on vous propose d'éclairer les mécanismes d'emprise, de déprise, d'exploitation plutôt par une approche ethnologique et sociologique. La visée par la suite ce sera finalement de venir se retrouver aussi en petit groupe, partir de vous, c'est ce qui semble important et je pense ce qui relie aussi les intervenants, la dynamique de la dette et la nôtre, et puis peut-être aboutir, s'il y a lieu et si les forces vives sont prêtes à s'engager là-dedans, à la constitution d'un réseau qui vienne soutenir les pratiques d'accompagnement des publics. On a eu la chance pour cette journée-là et pour l'ouvrir, et on a la chance d'accueillir Pascal Jamoul, qui nous arrive de Belgique, qui est professeur à l'université, ethnographe, c'est ça. Et puis on accueillera cet après-midi Olivier Perroux, qui lui-même est sociologue et que vous continuerez à côtoyer dans les ateliers, puisque c'est lui qui animera les ateliers et potentiellement la constitution d'un réseau à la suite. Je vais tout de suite laisser la parole à Pascal. Je vous souhaite une bonne matinée. Dans le commun, on a vraiment cette volonté que la matinée, la journée puisse être interactive. Donc vraiment, sentez-vous libre d'intervenir, de poser des questions, d'interagir. La journée ne sera que plus riche. S'il y a des questions, n'hésitez pas aux logistiques ou n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des équipes. Vous avez vu à l'entrée. Voilà. Bonne journée à tout le monde.
Je vais essayer de parler sans micro. Non, c'est pas mieux? Parce que si je parle avec le micro, vous n'allez pas intervenir, parce que vous n'avez pas de micro. Ah si, mais vous avez un micro.
Oui.
Ah. Bon, on peut essayer alors. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça pour vous? Vous préférez avec micro? Ok, mais alors je ne peux pas me balader. Ok, tant pis. Je vais rester un peu plus coincée. Donc, je trouve que Elsa a raison. Hein. Les connaissances, vous les avez autant que moi. Peut-être la différence, c'est que j'ai pu passer beaucoup d'années à écouter des personnes qui avaient été sous emprise et construire avec elles un ouvrage. Un ouvrage que vous pourriez construire vous aussi, je veux dire, parce que les expériences d'emprise, elles sont... Personne ne peut y échapper. Bon, bien sûr, il y a des degrés dans l'emprise, hein, donc c'est clair. Il y a des gens qui, très vite, ont des petites lumières rouges qui s'allument, ou ont les moyens, ou ont des ressources et s'en échappent. Quoi. Mais dans notre labo... On travaille sur une notion qui nous a été amenée par les africanistes qui explique pourquoi l'emprise nous envahit de partout. Et donc j'avais envie de partager avec vous d'abord cette notion et puis de démarrer à partir de ce que m'ont dit les hommes et les femmes avec qui j'ai longuement travaillé. Donc cette notion, c'est ce qu'on appelle la modernité insécurisée. Donc c'est vraiment tout simple, c'est de se dire, voilà, on est dans un moment de modernité insécurisée dans les sociétés. Quand l'État ne prend plus en charge des pans de plus en plus importants de la population, et vous êtes bien sûr aux premières lignes pour le voir, hein, donc c'est clair que les gens qui tombent à la rue, c'est clair que c'est un analyseur très clair du déficit, des carences des politiques sociales, hein, donc, parce que c'est là qu'on voit tout ce qui a dysfonctionné dans notre démocratie. Donc la modernité insécurité, c'est une histoire d'absence d'État. Mais c'est aussi une histoire, hein, donc où la coutume est détruite par la mondialisation. Donc la coutume qui fait que les plus fragiles sont pris en charge par les familles, par les clans, par les lignages, vous voyez, hein, donc, par les villages chez nous. Hein, donc, eh bien, en mondialisation, où chacun est autorisé à accumuler pour soi et à se débrouiller pour soi-même, hein, donc, ça ne fonctionne pas non plus. Hein, donc vous voyez, c'est au croisement de deux carences, quoi. Carence d'État et coutume qui se déconstruit. Alors, dans notre labo, que ce soit au nord ou au sud, parce qu'on est quand même beaucoup d'ethnographes à travailler sur ces questions, bah, on se rend vraiment bien compte qu'on n'est pas du tout, quand on est comme ça, en flottement, hein, donc aidé par personne, en quelque sorte, hein, donc, on n'est pas du tout dans une situation de désaffiliation, comme le pouvait le dire Castel dans les années, on dit 95 chez vous, 95, voilà, oui. Au contraire, il y a des liens extrêmement puissants entre les gens, vraiment, d'une puissance énorme, même parfois radicalisée. Donc, des liens très puissants, mais ce sont des liens de violence et d'emprise. Donc, et on voit émerger des big men ou des big women donc, qui vont être capables de mobiliser et de mettre sous emprise et d'instaurer des climats de violence. Donc, envers des aéropages, donc des tas de gens qui s'affilient à leur réseau. Vous voyez où je veux en venir, hein, donc, alors évidemment, bien sûr, dans notre labo, la figure emblématique, vous la voyez, quoi, hein, vous la voyez tous, j'imagine. C'est la figure trumpienne, c'est Trump. Quoi, hein, donc, mais sauf que ça, c'est, oui, c'est une figure, on a l'impression que c'est une figure emblématique, mais qui se rejoue à tous les niveaux. Hein, donc, et c'est une des raisons pour lesquelles l'emprise, que ce soit dans le monde de la rue, dans le monde des trafics, dans le monde de la traite des êtres humains, dans le monde des gourous, hein, donc du développement personnel et des coachs, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde de la famille, hein, donc les relations d'emprise, on ne peut pas y échapper, on est obligé de les décoder, et rapidement. Hein, donc, voilà, et je pense que c'est pas, comme on en discutait avec Olivier et les autres hier, la figure du pervers narcissique qui met sous emprise une victime ne nous aide pas nécessairement. Vous voyez, parce que du coup, on ne voit pas tout ce qui se joue autour. On a tendance à penser que ce qui fait de l'emprise, c'est la relation d'emprise. Or, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, ce que m'ont transmis un peu les hommes et les femmes avec lesquels j'ai travaillé, c'est que la relation d'emprise n'est qu'un des nœuds de l'emprise. Ok, il n'est pas facile à défaire, à dénouer, mais il y a tous les autres. Hein, donc, et c'est pour ça que l'invitation d'Elsa m'a semblé vraiment chouette, quoi, hein. C'était une des premières fois que je me déplaçais depuis longtemps. Et cette vision qu'elle a d'amener le monde social du côté de l'emprise correspondait vraiment à ce que me disaient les gens. Hein, donc, et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai rejoint aujourd'hui. Hein, donc, et donc, cette question de l'emprise, c'est une énigme. Vous le savez tous, hein, c'est une énigme tant dans la relation d'emprise, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, quoi, hein, on ne comprend pas comment cette personne qu'on connaissait, on ne la connaît plus. Pourquoi elle réagit comme ça? C'est une vraie énigme. Hein, donc, en même temps, on ne comprend pas comment Trump est arrivé au pouvoir. Vous voyez, donc, cette énigme est partout. Et donc, je prends Trump comme figure emblématique, mais vous en connaissez beaucoup d'autres. Quoi, hein, donc, et donc, c'est ça qui m'a animée dans cette enquête de terrain, d'essayer d'élucider, d'essayer de comprendre. Hein, donc, ça ne veut pas dire que je sais aider les gens qui sont sous emprise. Hein, donc, ça, c'est votre taf. Donc, mais moi, mon boulot, c'est d'essayer de comprendre. Je le dis parce que souvent, après, quand je fais une intervention publique, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me racontent des situations d'emprise particulières. Et moi, je suis vraiment très touchée, bien sûr, qu'ils me fassent confiance. Mais je crois que la compétence sociale, clinique, politique est de votre côté. Ma compétence, elle est plus essayer de comprendre à partir des savoirs d'expérience des gens. Et c'est pour ça que c'est important qu'on se mette ensemble. Je veux dire, je ne suis qu'une pièce de puzzle. Hein, donc, et vous avez les autres, quoi. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est vrai que de plus en plus, on est dans un monde qui va très vite. Et donc, on pense que les recherches, ça peut être fait en 2, 3, 4, 5 mois. Donc, moi, pour tenter de comprendre les scènes d'emprise, ça m'a mis plus de 7 années. Hein, donc, c'est vous dire que c'est une approche très complexe. Vous le savez tous, quand on approche un système d'emprise de façon frontale, on se fait tout simplement éjecter. Donc, l'emprise, c'est plein de moments de rupture avec les autres, justement. Donc, c'est une aussi, une des mécaniques de l'emprise, de rompre le contact avec les autres. Donc, pour approcher ces questions qui se jouent dans le temps aussi. Donc, toutes les emprises n'ont pas les mêmes degrés, elles se jouent parfois sur des années. Il m'a fallu beaucoup de temps et puis croiser toutes les sources qu'utilisent les ethnographes, c'est-à-dire l'immersion, me faire adopter par des familles où les questions d'emprise étaient là. Me faire adopter, je crois que nous, on doit faire partie d'un quartier, d'une famille, etc., pour comprendre ce qui s'y passe. Et on appelle ça des adoptions. Vous voyez, j'imagine que dans votre boulot, il y a des gens parfois qui vous disent « tu es comme ma sœur ». Donc, vous voyez un peu, après on dit non, on ne peut pas, parce que on n'est pas ta sœur. N'empêche que si on veut vraiment comprendre, parfois on est obligé de prendre ses positions. Donc, moi, j'appelle ça l'immersion, mais je pense que vous, sur le terrain, vous faites une immersion depuis très longtemps. Donc, c'est pas très original, c'est clair que ça nous permet de comprendre les lieux, les langages, les logiques des gens, l'immersion. Puis alors, l'observation participante, c'est comme si chaque fois vous rentrez du boulot et puis vous remplissez votre carnet de terrain. C'est la seule différence entre vous et moi. Et ça, vous pourriez le faire, quelle que soit la thématique, créer un carnet de terrain. Il y a les récits de vie approfondis. Ça, c'est peut-être parce que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à faire des récits de vie avant d'être anthropologue. À l'époque, j'étais professeure de français. Et je travaillais sur la question des écrivains prolétariens et je voyais comment ils travaillaient. Et donc les récits de vie, c'est ça. C'est tout simplement amener des gens à raconter leur vie, prendre note de ce qu'ils disent, enregistrer ce qu'ils disent, leur restituer, puis dire non, c'est pas ça, ça s'est pas vraiment passé comme ça, et puis j'ai pas dit ça, alors on retravaille, jusqu'à ce que les personnes soient satisfaites de l'effort qu'elles ont fait pour m'aider dans le livre que je voudrais écrire sur l'emprise. Vous voyez ? Donc ce n'est pas des gens que j'ai rencontrés dans une relation d'aide, ce sont des gens qui m'ont vraiment aidée à comprendre ce qui s'est joué. Donc, ça aussi, ça peut être une révolution un peu copernicienne sur le terrain, mais à partir du moment où on voit les choses en disant « tiens, voilà, la personne qui est en face, elle a une expérience que je n'ai pas, et donc elle va m'aider à la comprendre », et qu'on oublie cette obsession qu'on a de l'aide, d'aider, mais qu'on accepte d'être aidé, ça change très fort le travail de terrain, je trouve. Les conversations informelles, bien sûr. Il y a plein de choses qu'on dit dans une conversation très formelle avec un enregistreur, et puis qu'on dit complètement autrement quand on est là, dans le coin de café. On a plein de lieux informels tout le temps, capter un peu ce qui se dit. Et puis ce que nous, on appelle les archives privées, que vous connaissez sûrement aussi, c'est simplement dire à la personne... Tiens, et t'as pas un papier de cette époque-là ? T'avais pas une lettre de quand t'étais ado, là, que tu me racontes ton histoire ? T'as pas une... Oui, quand le juge t'a écrit ça, t'as pas la lettre, Et puis, donc, les gens, ils ramènent des archives privées, des trucs qu'ils ont gardés. Parfois, c'est des photos, parfois, c'est des objets, donc, qui sont importants pour eux. Et puis, à partir de là, il y a tout qui se débloque, la parole se débloque, vous voyez, donc... Les souvenirs reviennent et peu à peu, comme ça, les gens retrouvent des narrativités qu'ils avaient, qu'ils pensaient avoir oubliées. Alors, peut-être la caractéristique de cette enquête, c'est que j'avais déjà fait pas mal de terrain dans le Hainaut, qui est le monde ouvrier d'où je viens, le monde ouvrier du Nord, l'ancien bassin minier qui est un peu en catastrophe industrielle, mais qui tente de se reconvertir. Il y a la Seine-Saint-Denis, où j'ai longuement enquêté sur les questions migratoires. Puis il y a Paris, où j'ai quand même, entre la Seine-Saint-Denis et Paris, il y a quand même des ponts. Et c'est vrai que j'ai travaillé pas mal pour la mission des conduites à risque à Paris. Et puis Marseille, où j'ai suivi tout un groupe d'habitants depuis plusieurs années. Et donc, sur ces différents terrains, au départ, c'était des rencontres, et c'était mettre les gens au travail sur ces nouvelles questions qui m'habitaient. Donc, oui, mon boulot, c'est pas très loin du vôtre, sauf que je recueille ces données-là, et que parfois, vous êtes un peu bloqué sur les anamnèses et vous ne les recueillez pas nécessairement parce que vous n'avez pas le temps pour plein d'autres choses. Mais c'est simplement... d'essayer de comprendre ce que les gens ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont ressenti quand ils ont vu et qu'ils ont entendu ça, donc comment, ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils ont fait, mais pourquoi ils ont vu les choses comme ça, comment et pourquoi ils ont fait ça. Vous voyez ce que je veux dire, donc essayer de ce qu'on nous appelle c'est le décentrement, essayer de voir comment les gens voient les choses. Donc ça suppose de suspendre évidemment le jugement, mais ça vous connaissez bien. Et puis, ça permet de voir aussi ce qui s'est joué dans une trajectoire, dans un monde social, d'essayer de comprendre ce monde et ce qu'il produit, donc comme représentation, etc. Et puis, de comprendre aussi les enchaînements dans les histoires. Donc, et bien sûr, quand les histoires, elles se recoupent, ben vous vous dites, ben dans les milliers de trajectoires possibles, il y a des histoires où il y a les mêmes enchaînements. C'est donc qu'il y a des phénomènes sociaux qui sont en jeu. Parce que sinon, plein de gens ils pensent que l'emprise, on la travaille sur le banc de l'analyste. Moi, je veux bien, c'est vrai, hein, c'est intéressant de faire ça, de toute façon, pour tout le monde. Hein, donc, mais à partir du moment où les mêmes histoires se répètent avec les mêmes enchaînements, peut-être il faut travailler sur ces enchaînements, parce qu'à chaque enchaînement, il y a de la prévention possible, ou il y a de l'aide possible, qui permettent d'ouvrir les maillons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien identifier ces enchaînements, ça me semble important pour l'intervention, pour évaluer ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait sert à quelque chose dans ces enchaînements, ou pas? Ou alors, c'est complètement à côté de la plaque. Et donc, au début, je ne pensais pas travailler sur l'emprise. Au début, je pensais travailler sur la violence conjugale et intrafamiliale. Parce que je me disais, bon, là, je commence à être un peu âgée, j'en ai beaucoup entendu dans mes différentes enquêtes. Et c'est vrai que cette question de la violence, elle m'habite, quoi. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se joue dans la violence, quoi, sur ces différentes dimensions, hein, de la violence. Et donc, j'ai commencé par faire des récits, principalement de femmes qui avaient connu la violence conjugale et intrafamiliale. Et puis quand je voyais leur histoire, je voyais je voyais que c'était pas seulement de la violence et de la domination, c'était de l'emprise. C'est-à-dire que les personnes étaient en dépendance du système qui les dominait. Vous voyez, donc déjà. Et puis je voyais que dans leur histoire, il y avait vraiment constamment des répétitions, mais pas toujours sur les mêmes scènes. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vit une emprise dans le couple, elle vous raconte une emprise incestueuse qui a eu lieu, ou alors elle vous raconte qu'elle a eu plusieurs hommes avec qui elle a vécu ce genre de situation. D'ailleurs, je suis une femme battue, hein, donc c'était une identité. Mais... Et puis elle vous raconte aussi que l'emprise s'est aussi parfois répétée dans le travail. Elles ont été sous emprise du boulot. Et puis, elles ont été sous emprise d'un gourou. Et puis, leurs gosses ont été sous emprise des réseaux du trafic, vous voyez. Et donc, on voit que ça se déplace dans leur vie, et parfois en intergénérationnel. Et donc, du coup, ça n'avait plus aucun sens que je travaille sur la violence conjugale et intrafamiliale, vous voyez. Ça n'a plus de sens. Il fallait que je travaille sur la mécanique de l'emprise en sachant qu'elle se déplaçait. Et en posant une question anthropologique, à savoir, est-ce qu'il y a des traits structuraux dans l'emprise, dans les différentes scènes? Parce que nous, je veux dire, nos modalités d'intervention, elles saucissonnent la vie des gens. Hein, donc, vous avez des gens qui vont intervenir pour les toxicomanies, vous avez des gens qui vont intervenir pour la violence conjugale et intrafamiliale, vous avez des gens qui vont intervenir pour l'emprise dans le travail, le prud'homme, etc. Vous voyez, on saucissonne, hein, comme si chacun a sa compétence. Mais à partir du moment où les choses se répètent dans la vie des gens, sous une autre forme, mais sur une autre scène, je veux dire, mais avec les mêmes traits structuraux, ben, il est possible que les gens qui ont des compétences pour soutenir, par exemple, les femmes en prise avec la violence conjugale, ont aussi les compétences pour soutenir les jeunes qui sortent des réseaux, et ainsi de suite. Vous voyez, donc, que peut-être c'est nos systèmes qui ont saucissonné l'intervention, mais ce n'est pas les problématiques elles-mêmes. Hein, donc, ces problématiques-là, donc, elles se répètent sur différentes sphères et dans différentes dimensions de la vie. Et donc, c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Hein, donc, et ça a donné cet ouvrage. Et alors, avec l'éditrice, on l'a appelé « Je n'existais plus ». Parce que, enfin, je ne sais pas comment ça va vous, mais moi, j'ai une éditrice qui est vraiment engagée, quoi. Hein, c'est vraiment un œil extérieur. Et donc, elle lit parfois les récits. Et alors, elle dit, voilà, Je crois qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois, c'est la dépersonnalisation. Le fait que les gens, une période de leur vie, ils n'existaient plus. Vous voyez, donc, et puis à un moment, ils ont réexisté à nouveau. Donc je te propose de prendre une ligne très transversale, je n'existais plus. Et puis j'ai appelé ça les mondes de l'emprise et de la déprise. Et c'est ce qu'Elsa m'a demandé de faire. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que j'intervienne sur une seule scène, par exemple la scène de la violence conjugale, ou est-ce que tu veux que je traverse? Elle m'a dit, écoute, moi je suis sûre que vu les gens que les travailleurs rencontrent et leurs différentes problématiques, il faut travailler en transversal. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je vais vous présenter un peu une lecture transversale des différentes scènes. Donc, peut-être vous dire aussi que les gens ne peuvent parler d'un système d'emprise, de comment ça marche, qu'a posteriori. Quand ils sont dedans, ils ne peuvent pas en parler, puisqu'ils ne sont pas là. Vous voyez ? Donc, puisqu'ils sont complètement habités par le système, ils en font partie. Donc ils ne peuvent pas l'identifier. Donc, c'est probablement la différence entre un système de domination et un système d'emprise. Vous avez tous connu des systèmes de domination au travail, par exemple. Mais vous saviez que c'était un système de domination et vous étiez révolté. Il est peut-être arrivé dans votre vie que vous viviez un système de domination au travail dont vous ne vous rendiez pas compte, donc que vous commenciez à en être les agents. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui ? Bon, alors ça devient un système d'emprise. C'est-à-dire que vous adhérez au système, que vous en faites partie. Ce qu'on appelle la dépendance affective, qui peut se jouer dans les couples, dans le travail, dans les abus de transfert, dans les réseaux. Dans les réseaux, c'est très fort, vous en faites partie. On voit beaucoup de membres des réseaux qui, au départ, ont été des victimes et qui deviennent acteurs du réseau. Donc on va essayer de le décrypter. Et d'amener toujours cette discussion du local, donc d'une étude de cas ethnographique ou d'études de cas ethnographiques. Je vais vous livrer quelques éléments, quelques extraits de récits. Mais d'essayer de penser le global. Oui, donc ça renvoie au global, à notre monde. Ce n'est pas à part du monde, ce n'est pas marginal, c'est notre monde. C'est ça que j'ai compris au fur et à mesure. Oui, que c'était notre monde. Et donc... Après, on va par... Alors là, vous allez être KO. Vous allez dire, il y en a qui vont partir, vous êtes KO. Parce qu'un système d'emprise, c'est mortifère. Donc ça va vous atteindre. Et donc, ce qui est très important, c'est que vous me laissiez aller jusqu'au processus de déprise. Que vous restiez au moins pour la déprise. Parce que sinon... Non, mais je sais, parce que ça va vous renvoyer aussi à votre vie. Et donc, c'est difficile à certains moments d'entendre ce que ces hommes et ces femmes disent. Mais après, il faut savoir qu'aucun de ceux qui ont participé à l'ouvrage n'a été totalement sous emprise. Sinon, ils y seraient encore. Oui, donc, ils seraient toujours dépersonnalisés. Il y a eu des choses qui se sont passées qui les ont amenés à déployer des ressources. Et vous allez voir que comprendre les ressources qui amènent la déprise, ça c'est très complexe. C'est beaucoup plus complexe que l'emprise. L'emprise, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, pendant un an, je n'ai plus pu enquêter. Parce que je travaillais sur l'emprise et j'avais toujours les mêmes mécanismes. Et donc, je commençais à être vraiment atteinte, vous voyez. Donc, j'apprenais plus rien. C'était chaque fois la même chose, quoi. J'en avais mais marre de cette enquête. C'était trop, quoi. Et puis, à un moment, j'ai vraiment eu des déclics. Je me suis dit, Pascal, tous ces hommes et ces femmes, tu es toujours en contact avec eux. Pourquoi ? Ben, parce que ce sont des gens assez extraordinaires, qui en connaissent un bout sur le pouvoir maintenant, vous voyez, à qui on ne l'a fait plus. Donc, peut-être que la vraie question, c'est la question de la déprise, de devenir à partir d'une expérience de l'emprise. C'est pas ça, il n'y a pas toujours que des happy ends, il y a des choses dramatiques parfois qui se passent. C'est comme sortir des drogues, sortir de l'emprise, il y a des hauts et des bas, il y a des rechutes et on avance, etc. Mais quand même, ça fait des gens très spéciaux, des gens qui ne sont pas dans le cadre, ou qui analysent le cadre avec une justesse. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai pu recommencer à écrire, c'est en repartant avec mes interlocuteurs et mes interlocutrices sur la question de la déprise, qui est extraordinairement vaste et créatif. Donc, a posteriori, Après, qu'est-ce qu'un système d'emprise ? Alors, nous, les ethnographes, on ne commence pas par des notions. Ici, j'ai commencé par une notion, la modernité insécurisée, mais elle est très vaste. Quoi, hein, donc, mais on commence toujours par les mots du terrain, c'est-à-dire comment les gens nomment les choses. Hein, donc, parce qu'eux qui l'ont vécu, ils ont un langage pour les nommer, qui n'est pas du tout le même langage que... Oui, que les professionnels ou que les universitaires, parfois. Un professionnel, s'il a 2-3 ans de pratique, il commence à avoir de la bouteille et il les a en tête, les mots du terrain. Il sait comment ça se dit. Et donc, ce que les gens disaient, c'était la métaphore du filet. J'étais prise dans un filet. Ou alors, ils disaient, des gens qui ne se connaissaient pas du tout hein, et qui n'étaient pas sur les mêmes sphères d'emprise, ils disaient, voilà, Pascal, en fait, je t'ai prise dans un filet. En fait, tu vois, ce truc-là avec mon mari, hein, ben c'était un nœud dans un sac de nœuds. Vous voyez ? Un nœud dans un sac de nœuds. Donc il me décrivait un système nodal. Hein, donc, un système de nœuds. Donc, je ne pouvais pas voir que la relation d'emprise, comme on en avait parlé. La relation d'emprise n'était que un des nœuds parmi les autres. Quoi. Alors, il y en avait qui avaient des métaphores du trou aussi. Ça, c'était vraiment très fort. Bon, c'était toujours un peu la même idée. C'est comme si on avait un trou dans le crâne, vous voyez, et qu'il y a des gens qui peuvent entrer par ce trou, ou il y a des gens qui prennent une paille, ils vous aspirent le cerveau et ils rentrent dedans. Vous voyez, la métaphore de la possession, en quelque sorte. Hein, donc c'est cette idée qu'il y a des moments où on n'est plus là. Le truc, je n'existais plus. Oui, donc... Ou alors, vous avez des gens plus intellectuels qui disent il n'y avait plus de moi. Non, mais toi, qu'est-ce que tu en pensais ? Mais il n'y avait plus de moi. Mais dans ton fort intérieur, qu'est-ce que tu en pensais ? Ben, j'avais plus de fort intérieur. Non, mais je ne pensais rien. Je ne pensais plus. Vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant. Quoi. Alors, il y a des gens aussi qui ont vécu les systèmes d'emprise, qui regardent beaucoup tous les trucs de la torture, des morts vivants, les camps de concentration, tout, ils regardent beaucoup ça à la télévision, hein, ou dans les documentaires, ou dans les podcasts. Hein, ça les intéresse vraiment, parce qu'ils disent, mais moi j'étais comme un zombie, j'étais mort-vivante. Hein, donc ça les intéresse de voir comment on fabrique des morts-vivants, et comment on peut aussi être un mort-vivant. Hein, donc cet imaginaire du zombie, du mort-vivant, est assez... revient aussi. Hein, après, si vous dites aux gens, est-ce que tu as été sous emprise ? Ils disent non, bien sûr. Moi, je me fais taper par mon mec, mais c'est pas sous emprise. Bon, le patron, il m'a eu, hein, mais l'emprise, non. Donc, ça veut dire que l'emprise, c'est pas un mot du terrain. Vous voyez, c'est un mot intellectuel plutôt. Hein, et d'ailleurs, les gens ne voient pas du tout. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont venus en croyant qu'on allait parler ici des abuseurs. Ah, donc, parce qu'on pense, en prix, ça peut être les abuseurs, ça peut être les abusés. On ne voit pas non plus toutes les, je dirais, les différentes étapes de l'emprise. Vous voyez, si vous êtes sous emprise de manière légère ou extrêmement forte, vous voyez, extrêmement radicale, on ne voit pas les degrés. Hein, donc c'est un mauvais concept. Alors, les concepts les plus intéressants, je trouve, c'est tout le vocabulaire de l'emboucanement que j'ai appris sur mon terrain marseillais. Ah, donc, ça, c'est vraiment très clair. Avec ça, si vous dites à quelqu'un, et toi, ça t'est arrivé de te faire emboucaner ? Ah oui, hein ? Et puis, hop, il commence à raconter, etc., etc. Ouais, emboucaner jusqu'à l'os même. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et maintenant ? Ah ben non, maintenant, tu sais, moi, c'est fini, hein, je ne me fais plus emboucaner. Alors, donc, quand on creuse un peu... On se rend compte, qu'est-ce que c'est se faire emboucaner ? Bon, déjà, il y a différents acteurs. Il y a ceux qui emboucanent, donc ceux qui grignotent le cerveau, ceux qui... Alors, ça peut être, c'est pas nécessairement des personnes, ceux qui emboucanent. Hein. Ça peut être la société de logement. Ça peut être, le mari, ok, mais ça peut être aussi l'islam radical. Ça peut être une société de vente de pizza. Qui vous a emboucané. Hein, donc, ça peut être un psy qui a envoyé vos gosses dans le foyer. Il vous a complètement emboucané. Voyez, donc on voit déjà... Donc, déjà, cette histoire du pervers narcissique, ça saute. Puisque ça peut être un système, ça peut être un dogme qui vous emboucane. Hein, après se faire emboucaner, on voit que c'est tout un processus. Hein, c'est très long. Hein, on vous fait faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Progressivement, ben oui, on vous grignote le cerveau. Progressivement, vous devenez agent du réseau. Enfin, bon, on va se faire emboucaner, c'est lent. Et puis, il y a aussi être emboucané jusqu'à l'os. Ah, donc, et ça, ça veut dire qu'on n'est pas seulement dans le nœud où la mécanique de l'emprise est en marche, on est dans le nœud où on commence à en faire partie, donc dans le nœud de la dépendance. Et ça, c'est utilisé tant pour les drogues que pour un mari violent, que pour un système d'esclavagisme au travail. Donc, on est emboucané jusqu'à l'os. Donc, c'est le moment où le consentement n'a plus aucun sens, puisque vous n'êtes plus là. Donc, c'est même pas que vous pouvez consentir ou pas, vous n'êtes plus là. Donc, voilà, et sortir de l'emprise, c'est de se faire emboucaner, c'est dans toutes les sphères où le pouvoir peut devenir abusif. Donc, la sphère conjugale, la sphère du travail, la sphère... Et donc, on voit bien qu'avec ce vocabulaire de l'emboucanement, on doit cesser de penser l'emprise comme une relation entre une victime et un pervers. On doit la penser beaucoup plus globalement, quoi. Alors maintenant, quand on analyse un peu ce que les gens disent d'être sous emprise, ben, il y a plein de trucs qui reviennent. Hein, donc, mais au départ pas. Hein. Au départ, quand on fait des récits de vie sur l'emprise, on commence par travailler toutes les ressources que les gens avaient depuis qu'ils sont tout petits. Hein, donc, en gros, ce qui a été les ferments de la déprise. Hein, donc, et puis on tourne autour. On tourne autour, il y a plein de narrativités qui arrivent, on tourne autour, parce que l'emprise, c'est un trou noir. Vous voyez, donc, parfois, il y a des gens qui vous racontent, écoute, Pascal, franchement, il y a 4 mois, là, il y a au moins 4 mois, je ne me souviens plus de rien. Je ne sais plus ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je n'étais pas là, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont des amnésies aussi, hein, vraiment des amnésies très fortes sur ces périodes-là. Quoi, hein, donc, mais donc, à force de tourner autour, on arrive au trou noir et les gens commencent à trouver des mots pour raconter. Ils racontent une dépersonnalisation, donc le fait qu'ils aient oui, une sorte d'anéantissement psychique pour survivre, mais pas seulement psychique, aussi physique et relationnel et social. C'est-à-dire qu'ils ont coupé avec tout le monde, ils ont été amenés à le faire, quoi. Leur corps ne leur appartient plus, donc ils ne ressentent plus rien, donc le corps peut les taper, donc... Ils ne sentent plus rien. Ils peuvent faire des 30 heures d'affilée de boulot. Ils ne sentent plus rien. Vous voyez, leur corps a disparu. Hein, donc, ils peuvent... et surtout, ils ne pensent plus par eux-mêmes. Et ils sont complètement dépendants de ce qui s'est passé. Donc, ils mettent le système d'emprise bien plus haut qu'eux. Eux ne sont rien. Ils ne sont qu'un petit pion de ça. Hein, donc, comme les jeunes, par exemple, qui font partie des réseaux dans les quartiers, qui sont capables, à un moment donné, de tuer un môme du quartier d'à côté, parce que c'est une question d'honneur du quartier. Oui, donc, mais ils ne sont plus là, c'est juste ils le font. Quoi. Donc, et donc, cette mise sous silence, cette dépendance affective, elle est tellement forte qu'ils se mettent sous silence sur eux-mêmes, ils ne sont plus là, vraiment. Enfin, c'est très difficile de penser par eux-mêmes, en tout cas. Donc, et puis, sûrement pas à l'extérieur, il y a une honte de raconter les choses à l'extérieur, quoi. Les autres ne comprendraient pas. Oui, ils disent toujours, tu pourrais pas comprendre. Les autres pouvaient pas comprendre. Il y a que nous qu'on sait. Hein, par une famille sourde, il y a que nous qu'on sait. Hein, donc les sujets, ils sont tellement anéantis qu'ils doutent même de ce qu'ils voient. Vous voyez, donc je sais pas. Par exemple, je me rappelle une société de livraison de colis qui avait mis complètement ses chauffeurs sous emprise, ses chauffeurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Ben, le type, il racontait, il dit, tu deviens un assassin de la route, hein. Tu as tellement de clients, quoi. Je sais pas, tu dois en faire 60. Bah, tu fais du 60 à l'heure dans les petits villages, tu fais en même temps tes trucs administratifs en conduisant. C'est vroom, 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 il raconte. Oui, la robotisation de l'être au travail. Quoi. Et donc, la personne, si on lui dit mais quand même, tu trouves ça normal, ah bah, il faut bien que la société survive. Vous voyez donc, c'est-à-dire qu'ils doutent même de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Donc, je dis c'est dangereux. Oui, mais enfin, il faut quand même que la société vive. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Il faut t'adapter. Donc, oui. On le voit dans l'inceste aussi, hein, ces questions-là, on le voit bien. Hein, donc des enfants qui ils sont incestés, mais pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est la vie normale. Tous les enfants sont incestés pour eux. Hein, donc les enfants, c'est comme ça. Tous leurs copains aussi, d'ailleurs, mais ils ne le disent pas. Hein, mais oui, donc ils doutent, ils n'arrivent pas à voir qu'il y a un problème. Ils sont complètement dans la confusion entre la volonté de l'abuseur et la leur. Si l'abuseur veut ça, ben eux veulent ça. C'est la même chose pour le chauffeur dont je vous parlais. Si la société doit survivre, la société de livraison de colis, ben eux, ils doivent être des assassins de la route, c'est normal. Oui, donc il y a cette question-là. Et puis les gens, ils se donnent tout entier. Ça, c'est un truc. Déjà, les femmes, elles sont éduquées comme ça. Elles doivent se donner tout entière au prince charmant, quoi. Donc vous voyez un peu le mythe du prince charmant. Vous reprenez ce même mythe, et vous le resituez dans les différents lieux où le pouvoir peut devenir tout puissant. Donc, c'est l'idée d'adhérer au système qui abuse et de se donner tout entier. Donc, alors, vous allez dire, ouais, mais nous, c'est travail social, Pascal, c'est pas... J'en connais combien qui sont arrivés au burn-out dans le travail social parce qu'ils se donnaient tout entier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, hein. On peut pas dire c'est eux et nous, hein. C'est... On est dedans, quoi. On est vraiment dedans. Donc, cette emprise, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Parce qu'on peut dire, OK, on vivra tous l'emprise. À un moment de notre vie, c'est bon, quoi. Hein, donc. Mais le problème de l'emprise, c'est que quand on ne l'élucide pas, quand on a disparu, hein, donc, quand on est dépersonnalisé, hein, donc, par une expérience d'emprise, elle se répète dans la vie. C'est pour ça que j'ai pris... J'ai pas mal d'expériences potagères. Alors, vous voyez mon chou romanesco. Vous regardez un chou romanesco. Ben, c'est incroyable, vous voyez. Tous les petits morceaux du chou renvoient au chou. Et donc, ça veut dire que quand vous avez vécu une emprise, vous avez des répétitions isomorphiques du même forme dans votre vie. Alors, justement, vous ne voulez pas ça. C'est exactement ce que vous voulez fuir. Vous revient. Hein, donc, pourquoi? Mais parce que... Une emprise peut devenir la cause d'une emprise suivante. Hein, donc, parce que vous êtes tellement vide, hein, donc, que vous cherchez quelque chose de plus grand que vous, hein, de temps que votre identité revienne. Et puis aussi, il y a la question de la transmission aux enfants. Quand vous avez été tellement vidé de toute votre énergie psychique, sociale, physique, relationnelle, etc., ben, ce que vous transmettez malgré vous à vos enfants, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faculté rebelle qui tienne. Hein, donc ça peut avoir, si vous ne pouvez pas l'élucider, ça peut avoir des conséquences énormes. Comme le monde de Trump aura des conséquences énormes sur nos enfants. Hein, donc de nouveau, du local au global. Ça, j'ai déjà dit. Oui. Par exemple, un mot du terrain. C'est Clara qui est... l'ouvrage, si on a le temps, enfin, on aura le temps. On a décidé hier qu'on ferait une étude de cas, on ferait l'étude de cas de Clara. Hein, donc, qui est une psychologue que j'ai rencontrée en Seine-Saint-Denis, une femme incroyable, vraiment une psychologue communautaire, avec une compétence comme je n'ai jamais vue, chez qui j'ai logé tout un temps, pendant plusieurs années, quand j'allais à Paris. Et pour me rendre compte qu'elle avait vécu des expériences d'emprise assez effroyables avant de refaire des études. Hein, donc, elle en a une connaissance tout à fait intime de l'emprise. Elle m'a vraiment beaucoup aidée à faire d'ailleurs cette enquête. Elle me disait, voilà, donc c'est une réfugiée chilienne. Donc elle a vécu des chocs là-bas, au moment du coup d'État, à son arrivée ici. Hein, donc, alors elle dit, tous ces chocs, toute cette violence que j'ai vécue, ça a provoqué chez moi une espèce de dépersonnalisation, un état d'absence mentale. Je n'existais pas, je ne suis pas là. J'ai plus de subjectivité. C'était une période de Sibérie. Hein. J'étais vivre congelée, morte à l'intérieur. Dans ma tête, dans mon corps, il y a le vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sentiments, il n'y a rien qui s'imprime. Je n'ai aucune pensée, rien. Et ça a duré des années. Hein, donc, j'étais complètement sous emprise d'un groupe trotskiste radical et d'un mari qui l'a utilisé comme un objet. Quoi, hein. Donc, je trouve qu'elle raconte bien ça, en quelques mots, hein, ce que je vous ai raconté avant. Hein, donc, Et elle m'a amené, Clara, mais d'autres aussi, à chercher à interpréter l'emprise, non pas à travers les bouquins de psycho, où j'ai essayé quand même, hein, j'ai appris des choses aussi, hein, Grigoyen, etc. J'ai appris des choses à les lire. Mais j'ai beaucoup plus appris en reprenant, par exemple, les livres de Hannah Arendt, par exemple, Eichmann à Jérusalem, donc, où elle raconte comment, où elle raconte le stalinisme, elle raconte comment ça fonctionne un système totalitaire. Vous voyez donc, et là, ça m'a vraiment appris à voir comment marchent les différents nœuds. Quoi, donc, parce qu'un système d'emprise, c'est comme un système totalitaire, ça a une double scène. D'un côté, ça donne aux gens des appartenances, des rêves. Regardez les petits jeunes qui rentrent dans le micro-trafic de hashish dans les cités. Ça, du coup, ils vont beaucoup mieux. Ben ouais, ça leur donne une appartenance, des rêves. Une jeune femme qui est rien, qui se sent rien du tout, et qui rencontre un charmant loverboy. Bon, ben, c'est extraordinaire, elle va mieux au départ. Hein. Ça lui donne de la valeur, quoi. Donc. Mais sous le masque, il y a toute une machinerie. Et cette machinerie, comme dans tous les systèmes totalitaires, elle a trois mécaniques qui s'entrecroisent. Il y a d'abord la destruction de l'identité, hein, donc le fait que oui, vous vous sentez de plus en plus nul, de plus en plus disqualifié, vous avez de plus en plus peur, qu'on le voit, que les autres le voient. Hein, donc, et puis d'un autre côté, il y a un lavage de cerveau, vous êtes complètement désinformé, avec une inversion de la fausse, tout ce qui arrive c'est votre faute. Ah, donc, oui, si, oui, c'est marrant. Vous êtes là en train d'interpréter ce qui s'est joué comme votre faute. Mais oui, regardez, dans l'inceste, les enfants, l'adulte leur dit, mais oui, mais tu as pris beaucoup de plaisir à mes jeux. Et l'enfant dit oui. Ah, bien sûr, il dit oui. Ah, donc, parce qu'il est complètement dans un lien vital avec l'adulte. Et donc, il voit les choses comme l'adulte. Et puis, il y a une prise de possession des esprits, des corps, des vies. Ce qu'on voit, bien sûr, maintenant en Russie, avec Poutine aussi. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'insurgent. Hein. Donc, parce qu'un système d'emprise est très complexe et très puissant. Élise, qui, elle, a été très longtemps sous l'emprise d'un psychologue, d'un systémicien. Toute sa famille a été sous l'emprise. Il avait d'ailleurs plusieurs familles. Il retraditionnalisait les familles parce qu'il avait le sentiment, dans son cadrage théorique, que s'il y avait des problèmes dans les familles, c'est parce que les hommes n'étaient plus des hommes et les femmes n'étaient plus des femmes. Donc, avec des retraditionnalisations comme ça. Et donc, après, elle a été longtemps bonne chez ce gars, placée dans d'autres familles. Et puis, au fur et à mesure, elle a rencontré d'autres gourous. Et puis, elle en est sortie vers l'âge de 40 ans. Donc, elle en connaît un bout sur l'emprise. Hein. Et alors, elle dit, et quand je lui demande, comment est-ce que tu reconnais quelqu'un sous emprise? Elle, ce qu'elle me montre, ce n'est pas tellement la dépersonnalisation, c'est l'aspect, l'appartenance. Vous voyez, le fait d'appartenir à un groupe, quoi. Elle dit... Oui, d'abord, il y a une grande peur. Quelqu'un qui est sous emprise, c'est quelqu'un qui a peur de mal faire tout le temps. Une emprise, c'est un cadre très strict. Et si tu t'éloignes du cadre, tu ne fais plus partie. Tu ne fais pas plus partie du clan, tu ne fais plus partie de la famille. Donc, il y a la peur, mais il y a aussi le sentiment d'appartenance à un groupe. Ça, c'est hyper important. Il y a ce qui est bien, il y a ce qui n'est pas bien, se conformer à ce qui est dit dans le groupe. Ce n'est pas oser dire qui on est, pas oser être ce qu'on est. Pourquoi ? Pas pour être aimé. Donc, et obéir. L'emprise, ça donne du réconfort pour ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas ce qu'il faut, c'est ce côté positif. Mais tu ne peux pas te révolter, sinon on t'exclut. Et là, la personne, elle souffre énormément. Donc, vous voyez dans vos réseaux, j'imagine, hein, des enfants, des femmes, dans vos réseaux, ou simplement dans les différentes sphères où le pouvoir devient tout puissant, à savoir dans les familles, etc., vous le voyez, hein. Que les gens, ils veulent continuer à appartenir, c'est super dur pour eux de révéler ce qui se passe. Parce que sinon, ce serait des dissidents, sinon ils appartiendraient plus au clan, sinon ils seraient seuls. Donc, le nombre de fois on accompagne quelqu'un sous emprise, et puis 3 jours après, elle retourne. Donc, parce que le sentiment d'appartenance, ça met beaucoup de temps avant de se déployer. Donc, se déprendre, alors, sortir de l'emprise, ben, c'est dénouer les nœuds de l'emprise. Ah, donc, on en reparlera. Ah, donc. Mais en gros, c'est pouvoir imaginer notre vie. C'est pouvoir recommencer à penser par soi-même. Vous imaginez les années, parfois, les mois, parfois. Ah, donc, c'est pouvoir élucider ce qu'on a vécu. Parfois, les gens, ils arrivent à 60 ans, alors que ça s'est passé quand ils avaient 7 ans. Vous voyez, il y a le temps qui joue. C'est pouvoir décrypter... les rapports de pouvoir, quand il vous arrive, et on vit environné de rapports de pouvoir. C'est pouvoir, quand un rapport de pouvoir est là, le décrypter et pas tout lui donner. Donc, c'est pouvoir avoir des recours, avoir des cercles protecteurs, pour ne plus être isolé. Tout ça prend beaucoup de temps et on va le voir au fur et à mesure, quoi. Et quand ça se passe, on se préserve de la répétition parce qu'on a de la lucidité. Pas parce qu'on ne tombe plus sur emprise, mais quand on retombe sur emprise, on commence à le voir. Donc voilà, ma première découverte, c'était qu'on ne parlait pas de relations d'emprise. Je lisais peut-être un truc sur les relations d'emprise, qu'on parlait de système d'emprise, que c'était un sac de nœuds. Et que donc, si c'est un sac de nœuds, il fallait que moi, même si dans la vie c'est un tout, même si ça se referme sur les gens, il fallait que de manière plus pédagogique, en quelque sorte, pour comprendre, parce que comprendre c'est mettre les pièces de puzzle ensemble, il fallait que je fasse nœud par nœud. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, en sachant que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Les gens ils vous disent pas, voilà, il y a un premier nœud et un deuxième. Je vous raconte, et puis vous voyez comment... Mais bon, c'est uniquement pour comprendre.